Géopolitique.
Amélie Beaucourt.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Géopolitique. Deux semaines après la chute de Bachar el-Assad, deux semaines après la prise de pouvoir par le groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham, HTS, le très long chapitre d'un règne sans partage sur la Syrie semble prendre fin. Un chapitre fait de 13 ans de révoltes populaires et de guerres de territoire qui ont laissé 500 000 morts. Un tiers de la population syrienne vit aujourd'hui en exil et parmi les deux tiers restants, l'écrasante majorité vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté dans une situation humanitaire catastrophique. Une nouvelle histoire commence donc à s'écrire, mais difficile de dire à l'heure actuelle s'il faut la craindre ou s'il faut s'en réjouir. Ahmed al-Shara, le chef de la coalition emmenée par HTS, a échangé son treillis militaire contre un costume de diplomate, désigné un premier ministre chargé de la transition politique du pays et appelé à la reconstruction d'une Syrie meurtrie. Les chantiers à la fois politiques, géopolitiques, économiques et sociétaux sont colossaux et ce sont sur eux que nous allons nous pencher aujourd'hui. Et maintenant, comment reconstruit-on la Syrie? Deux invités pour en parler, Carole-André Desornes, géopolitologue et spécialiste des rapports de force au Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour Amélie.
Vous êtes aussi chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique et membre de l'IREMO. Et Salam Kawakibi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue franco-syrien, directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Jeudi de cette semaine, plusieurs centaines de personnes, hommes et femmes, se sont réunies sur la place des Omeyyades à Damas pour manifester pour la démocratie et contre un État religieux qui écarterait les femmes de la société. Qu'est-ce que ça vous évoque, Carole-André Desornes ?
Je pense que déjà... La première chose, je pense qu'on peut dire, et Salam sera, je pense, tout à fait d'accord, c'est la preuve aussi que, pour la première fois depuis des décennies de dictature, la population peut enfin revendiquer, déjà, sans crainte de se faire tuer, de se faire arrêter, de se faire malmener.
Sortir dans les rues, vous voulez dire ?
Sortir dans les rues et appeler, en tout cas, souhaiter à plus de, enfin, à de la démocratie, mais surtout à ce qu'on l'entende, à ce qu'on l'écoute, ce qui était absolument impossible jusqu'à tout récemment.
C'est ce que vous constatez aussi
Tout à fait. Et la réaction du pouvoir en place n'était pas du tout celle dont les Syriens ont l'habitude à avoir. Alors, c'est même, les gens étaient enchantés, pas par les slogans qu'ils ont scandés, mais par l'atmosphère qui a entouré leur rassemblement. Et c'est déjà un point que le nouveau pouvoir politique marque dans l'histoire contemporaine de la Syrie, qui n'a connu depuis 1963 que la répression et le parti unique et les services de renseignement qui s'infiltraient dans tous les niveaux de la société syrienne.
Alors, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a, lui, d'emblée fait un rapprochement entre ce visage peut-être lisse, ouvert, que montre le gouvernement de transition. À sa tête, on a Mohamed al-Bashir qui a été nommé, c'est un homme de 41 ans et qui doit mener ce gouvernement jusqu'à la transition qui doit avoir lieu au mois de mars. Est-ce que vous craignez, comme le soulignait Antony Blinken, qui faisait le rapprochement avec la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, que ce visage qui a l'air ouvert, s'assombrisse dans les jours, dans les mois ou les années qui viennent. Salam Kawakibi.
Tout le respect, M. Blinken montre son ignorance de la géopolitique en général et de la région en particulier. Comparer la Syrie à l'Afghanistan, c'est quand même... Moi, si je suis professeur, je lui donne zéro sur sa copie. Et la démonstration honteuse du retrait américain de l'Afghanistan et la démonstration glorieuse du départ des Russes et des Iraniens et même les soldats du pouvoir syrien sont évincés une goutte de sang sur le sol syrien montre déjà une grande différence d'apparence. Et après, il faut savoir que la société civile syrienne, c'est une société très diversifié. Il y a beaucoup de communautés religieuses, il y a beaucoup d'ethnies. Et c'est un mélange qui a survécu pendant des milliers d'années Et le nouveau pouvoir en Syrie, qui n'est que provisoire, qui n'est que transitoire, ne cesse de répéter qu'il y a un respect qui va à l'encontre de la population syrienne, sans distinction entre hommes et femmes, sans distinction entre musulmans et chrétiens et kurdes et arabes. Et voilà M. Blinken, il nous renvoie à leur défaite en Afghanistan. Il ne faut pas faire payer la Syrie la paralysie américaine dans la région d'Afghanistan.
Carole André Descente, justement, sur cette reconstruction des liens entre les différentes communautés qui a l'air d'être mise en avant, en tout cas par ce nouveau gouvernement. Quel crédit est-ce que vous y accordez, vous? Et quelles sont d'ailleurs les spécificités peut-être du dialogue entre ces communautés? Est-ce que c'est délicat ou finalement est-ce que ça a l'air d'aller de soi puisque ça a été une logique en Syrie pendant très très longtemps?
Alors, effectivement, ça a été une logique, mais il ne faut pas oublier que le régime a joué sur les divisions, a nourri les divisions. Et on ne peut pas effacer les craintes de certains. Mais là, encore une fois, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Blinken. Les talibans n'ont jamais été lisses. Les talibans ont déjà été au pouvoir et ils ont bien montré, entre 1996 et 2001, ce qu'il valait. Donc je crois qu'il y a une très grande naïveté de la part de certains dirigeants en 2021, quand on appelait à d'abord attendre, mais c'était les mêmes dirigeants qu'entre 1996 et 2001. Donc je ne vois pas ce qu'on attendait d'autre, et notamment les appels à une inclusion au sein du gouvernement, excusez-moi, c'est un concept très, très occidental qu'on veut plaquer sur une société qui est aussi multiethnique. La Syrie est multiethnique, multiconfessionnelle. Maintenant, il va falloir que la population panse les plaies. Et comme dans n'importe quel conflit, parce qu'on a eu ça aussi au Liban, alors pas une dictature, mais une guerre civile, il va falloir laisser le temps aussi aux gens de reconstruire, de pouvoir aussi panser toutes les plaies qui ont été infligées. Et ce régime qui a vraiment joué sur le communautarisme, qui l'a nourri et qui aussi s'est fait passer pour le protecteur des minorités. Il n'a jamais été protecteur des minorités. Il était protecteur de ses intérêts, enfin je ne veux pas non plus caricaturer, et protecteur des chrétiens. Alors là aussi, désolé, mais il n'a jamais été protecteur des chrétiens, même si certains ici le pensent, parce qu'effectivement, il ne se sentait pas menacé, comme Saddam Hussein d'ailleurs, il ne se sentait pas menacé par les chrétiens. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont fui la dictature, certains qui ont été incarcérés, d'autres qui sont morts. Donc il va falloir le temps en fait. Laisser le temps, comme on dit, au temps, ce qui est assez difficile dans nos sociétés, parce qu'on veut que ce soit immédiat, et on a un peu oublié comment ça s'est passé chez nous aussi, du temps des révolutions, et qui est aussi, en tout cas, une prise de conscience, et qu'on ne rentre pas dans la logique de la loi du talion, mais ce n'est pas forcément propre au fait qu'on est dans une société multiconfessionnelle et multiculturelle.
Et on aime que ça aille vite, comme vous l'avez dit, et on aime aussi les comparaisons, et donc on voit fleurir tout un tas d'hypothèses dans la presse, quelle forme va prendre ce nouveau régime, et donc on essaie de calquer ce qui s'est vu dans la province d'Idlib, qui est gouvernée depuis 2017 par HTS. À quoi ça ressemblait la vie, à quoi ça ressemble peut-être encore toujours aujourd'hui la vie à Idlib depuis qu'HTS a repris la zone, et est-ce que c'est la Syrie de demain en miniature, selon vous, Salam Kawakibi?
Je ne crois pas, parce que Idlib, ce n'est pas la Syrie. Idlib, elle a une particularité. Et il y a une seule couleur ethnique et religieuse. Il y a très peu de chrétiens dans la zone d'Idlib. C'est vrai que les pratiques religieuses étaient très rigoureuses. Mais en même temps, il y avait des manifestations de protestation qui n'ont jamais été réprimés à la syrienne. Quand je dis à la syrienne, malheureusement, je veux dire à la Assad, comme on faisait à l'époque d'Assad, on tirait avec des balles réelles sur les manifestants. Il y a eu des protestations contre Ahmad Sharah, qui se nommait Al-Jolani, en liaison avec les libertés, surtout les libertés des femmes et leur présence dans la société. Et là, le discours qu'on écoute ces derniers jours montre bien que les nouveaux dirigeants se rendent compte de cette différence entre gérer une ville relativement moyenne, qui est libre, et gérer l'ensemble de la Syrie. C'est ça qui rassure un peu. Mais il faut voir sur le long terme ou le moyen terme comment le gouvernement de transition va gérer les affaires publiques. Et vu qu'il y a une pression interne importante, une conscience interne importante, et loin des pressions de Blinken et compagnie, parce que s'ils vont faire cette comparaison avec les talibans, on est mal parti. Et je termine. Hier, j'étais en conversation médiatique avec un ancien ambassadeur américain en Syrie qui disait que les États-Unis, ils ont mal calculé leur carte en se basant sur l'ethnie kurde dans le nord-est de la Syrie. Maintenant, il faut qu'ils se basent sur la majorité sunnite. Et là, je l'ai interrompu en disant, si vous allez continuer à penser la Syrie kurde, arabe, sunnite, chrétien, vous êtes mal barré. Il faut penser la Syrie avec ces Syriens.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Justement, un des défis aussi qui va se poser à présent pour ce nouveau régime, ça va être la refonte, la fonte de toutes ces factions rebelles qui ont toute cette coalition qui a permis la chute ou la fuite, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de Bachar al-Assad, puisqu'il a déclaré cette semaine qu'il n'était pas parti de son plein gré, que c'était une demande des Russes pour sa sécurité. On pourra en reparler si vous le souhaitez. On se dirige donc vers un mélange de soldats à la fois d'HTS, donc d'anciens combattants du front al-Nosra aussi, qui ont fait une croix sur leur passé, mais aussi d'anciens soldats de Bachar al-Assad, puisque Mohamed al-Joulani avait déclaré qu'il souhaitait une amnistie pour ces soldats. Est-ce que cette amnistie, elle est pour tout le monde? Et est-ce qu'on se dirige aussi vers une armée syrienne, une nouvelle armée syrienne composée de tous ces groupes et toutes ces convictions peut-être différentes? Carole André
Desson. Donc il est essentiel là aussi qu'il y ait une armée, et une armée qui représente la Syrie et l'ensemble des composantes de la société. Mais après, on ne sait pas. C'est-à-dire que ceux qui vont être effectivement poursuivi aussi pour crime, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, ils n'ont pas tous fui, hein, les criminels. Donc là aussi, il y aura ce besoin de justice, et on en reparlera certainement. Mais si on se contente de faire une armée uniquement avec les différentes factions rebelles, avec différentes tendances, dont certaines ont bénéficié de soutien aussi extérieur, ça ne peut pas fonctionner, en fait, là aussi, sur le long cours. Donc, il va falloir vraiment aussi intégrer, oui, les soldats. Et puis, vous avez des soldats de l'armée syrienne qui étaient soldats parce qu'il y avait aussi un salaire. C'est pas pour ça qu'ils adhéraient pleinement aussi au régime syrien. Donc, je pense que ce sont toutes ces composantes qu'il va falloir, et d'ailleurs, il l'a déclaré, hein, intégrer. Amnistie, ça on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, même dans les jours prochains. Il est clair que ceux qui ont été, en tout cas, embarqués, qui ont joué un rôle dans les arrestations, les tortures ou des massacres, ceux-là, ça ne risque pas de se passer de la même manière.
Donc chacun va devoir prouver un peu sa bonne foi, peut-être.
Alors prouver, parce qu'il y aura les témoignages, de toute façon aussi. Hein. Il y a aussi les prisonniers, il y a tout ça. Donc ça se saura assez vite. Ceux qui ont été, on va dire, soumis, en tout cas qui ont dû suivre, et ceux qui, eux, ont participé aux exactions. Mais il est clair, enfin, si on veut rétablir une normalité dans le pays, oui, il va falloir intégrer ces combattants. Après, encore une fois, on ne peut pas présager ce qui va se passer, mais c'est aussi finalement un signe de volonté, en tout cas, de construire et d'aller de l'avant.
Salam Kawakibi.
La justice transitionnelle va prendre sa place, c'est sûr et certain. Et la société civile syrienne s'est préparée à cette justice transitionnelle depuis bientôt 14 ans. Cependant, il faut souligner que la majorité de l'armée syrienne, ce sont des conscrits. Et ce sont des gens obligés à faire la guerre. Et ce sont des gens qui ne recevaient pas plus que 7 dollars par mois pour vivre. Ce qui explique leur fuite massive et rapide devant les rebelles. Bien entendu, il y a des criminels de guerre, et la tuerie syrienne est le conflit le plus documenté dans l'histoire contemporaine. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu un conflit ou une guerre contre les civils qui a été autant documentée. Et de plus, le régime, quand il a fui Damas, il a presque tout laissé comme document. Tout est en papier parce que ce n'est pas du tout digitalisé. Les dossiers de tous les détenus sont là. Les noms des gens qu'il a tués sont là. Les photos même des cadavres qu'il a tués et ensuite il a vidé de leurs organes pour les vendre sur le marché noir sont là. Alors tout ça, ça va aider la justice transitionnelle qui doit surtout ne pas être une justice revancharde. Et c'est ça qu'on peut souligner comme étant un point très positif de ce pouvoir nouveau, que depuis son arrivée à Damas jusqu'à nos jours, les actes de vengeance sont presque inexistants. Presque, je dis inexistants. Et j'aime bien le commentaire d'un ami qui m'a dit « Dans un vendredi noir, il se passe à Chicago beaucoup plus de tueries et de bagarres que ce qui s'est passé à Damas après la chute du régime d'Assad. »
Vous ne craignez pas des vendettas du tout ?
Les vendettas qui devaient se faire ces derniers jours n'ont pas eu lieu.
Et là, elles auraient eu lieu, c'est ça que vous dites.
C'était beaucoup plus attendu au début. Maintenant, je pense, le pouvoir actuel, il a repris les choses en main. Il y a des forces de police formées qu'il a amenées dans ses bagages. Et je crois que, aussi avec l'aide de la société civile, avec l'aide de l'ensemble de la société syrienne, ça peut être évité.
Dernière question, juste avant le journal, pour vous, Carole-André Desornes. On a vu la libération de tout un tas de prisonniers de la prison de Sednaya, qui est assez emblématique de la politique du régime, avec aussi des citoyens donc, qui prennent soin des prisonniers, bien sûr, mais qui s'engouffrent dans la prison pour collecter des preuves, justement, compiler tout ce qu'ils peuvent trouver. Combien de temps vous pensez que ça va prendre, en fait, de réussir à découvrir tout ce que cache cette prison, certains disent qu'il y a encore des endroits, des zones, des tunnels, peut-être qu'on n'a pas encore découvert.
Alors combien de temps, je ne sais pas, ça va certainement prendre quand même encore du temps, parce qu'il y a aussi les charniers, c'est-à-dire que...
Est-ce qu'il faut, pardon, que tout ça se soit organisé par des entités, qui ont une expertise là-dessus, ou est-ce qu'on comprend aussi que n'importe quel citoyen veut lui-même collecter des preuves et que ce soit une initiative citoyenne qui vienne vraiment de tout en bas?
Bien évidemment, déjà, comme le soulignait Salam, l'initiative citoyenne, elle existe déjà, parce qu'en fait, depuis le début de la révolte et de la guerre, toutes les victimes, proches des victimes, d'abord déjà filmaient, prenaient des photos. L'objectif étant d'essayer de récolter le maximum de preuves dans l'attente d'un futur procès. Donc on a déjà ça. Tous ceux qui avaient réussi déjà à s'enfuir. Et puis il ne faut pas oublier aussi le fameux César, photographe, qui était photographe de l'armée et qui est devenu ensuite le photographe des exactions commises dans les prisons, qui lui avait réussi à s'enfuir avec plus de 50 000 clichés. Donc on connaît déjà ça. Il est clair que ça va prendre du temps parce d'abord, il y a beaucoup de charniers où on ne sait pas encore où ils sont. Vous avez aussi Tadmor, vous avez même Hama, cette ville où il y avait eu ce massacre, pas que des frères musulmans d'ailleurs, du temps de Hafez el-Assad.
Des civils.
Les civils, où on sait qu'il y a des quartiers qui ont été reconstruits sur des cadavres. Donc il va falloir justement exhumer tout ça. Et ça va prendre du temps parce que même des années après, voire des décennies après, on continue à découvrir des choses. Mais bien sûr, initiative citoyenne, mais initiative organisée, parce qu'on a déjà des associations qui travaillent là-dessus, notamment sur les procès qui ont eu lieu en Europe. Mais ça, on pourra développer là-dessus aussi.
Oui, on développera juste après le journal. Carole-André Desornes, Salam Kawakibi, restez avec nous. On se retrouve dans 10 minutes, dans Géopolitique.
Géopolitique.
Amélie Beaucourt.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Géopolitique consacrée ce samedi à la reconstruction de la Syrie, deux semaines après le départ du pays de Bachar al-Assad qui met fin à 5 décennies de règne de son clan. Pour en parler avec nous, Carole-André Desornes, rebonjour.
Rebonjour Amélie.
Et rebonjour Salam Kawakibi.
Rebonjour.
Salam Kawakibi, je suis tombée sur une interview que vous aviez donnée il y a quelques années déjà, et dans laquelle vous disiez « La Syrie que j'ai connue n'existera plus ». Vous disiez aussi « Il n'y a pas une seule famille sans victime, la mémoire va être à travailler ». Les traumatismes, surtout chez les enfants, qui vont générer une génération « je ne sais vers quelle dérive elle va aller » si on n'intervient pas vite. L'image très noir que vous décrivez de la Syrie. Vous parlez d'un cadavre avec plusieurs poignards dans le dos et sur le visage. Et que tout ça ne peut ressusciter qu'avec la volonté des Syriens. Quel regard est-ce que vous portez sur ces propos aujourd'hui ?
Je les assume. Je les ai toujours en cœur. Et ce qui m'empêche maintenant de retourner très rapidement en Syrie, c'est pas que je manque de courage ni de volonté. C'est de ne pas avoir le choc de ne plus retrouver visuellement les lieux avec lesquels j'ai grandi.
Vous êtes originaire d'Alep.
D'Alep, qui a été à moitié détruite, notamment son paysage antique, ses quartiers anciens, ses souks, tout ce qui peut marquer les esprits et l'imaginaire. Pourtant, j'y habitais pas, mais j'habitais dans les quartiers ouest de la ville, moderne, mais quand même, revenir à Alep, voir cette destruction, me fera beaucoup, beaucoup de mal. Et je dirais plus, je crois que ce régime a réussi, et c'est à nous maintenant de remédier à cela, il a réussi une mission diabolique de détruire la société, de diviser la population, de traumatiser les générations. Je vous donne un exemple. Le nouveau dirigeant, Ahmed Chara, il n'a jamais demandé qu'on colle ses photos sur les voitures. Mais tellement ça a été ancré, et la culture de la peur a changé la méthode de vie des gens, que tout de suite, ils ont enlevé la photo de Bachar al-Assad pour coller la photo d'Ahmed Chara. Ça vous montre à quel point ce régime, il a réussi, entre guillemets, même s'il est parti, heureusement, il a réussi à détruire beaucoup de valeurs. Et tout ça, c'est à reconstruire. Et ça va prendre beaucoup de temps.
Un petit mot, justement, avant de parler de cette reconstruction-là, cette reconstruction après un traumatisme, on l'entend dans ce que vous dites. Un petit mot peut-être, Carole-André Desornes, sur la population syrienne qui vit à l'étranger. Est-ce que ce retour, il est souhaité déjà par tout le monde ? Est-ce que les gens peuvent, veulent revenir ? Et comment est-ce qu'ils s'organisent ?
Question vaste. Souhaité par tous, non, parce que justement, il y a des Syriens, alors, comme l'a très bien souligné Salam tout à l'heure, qui ont réussi à s'intégrer, construire leur vie, et la crainte en revenant de retrouver une Syrie qui n'est plus la Syrie qu'ils ont connue. Donc, il y a ça aussi. Mais ça, je pense que c'est pas propre à la Syrie. C'est-à-dire que je connais aussi des Libanais qui ont fui la guerre civile et qui ne sont jamais retournés parce que c'est trop terrible,
c'est
en fait.
C'est une déchirure.
C'est une déchirure. Parce qu'un pays qui, des pays qui ont été fracassés comme ça, il faut faire le deuil du pays tel qu'on l'a connu. Et c'est un autre deuil à faire. Il y a ceux qui, ceux du Liban, effectivement, et de la Jordanie qui, eux, espère pouvoir revenir parce que les conditions sont quand même très aussi difficiles. Et puis, le Liban est dans un état assez lamentable. Il est complètement exsangue. Quant aux autres, il y en a qui souhaitent rentrer, mais qui sont en attente de voir un petit peu ce qui va se passer, comment les choses vont tourner. D'autres qui, je sais, sont déjà partis, en espérant participer à cette reconstruction aussi, ou à cette construction tout court, parce que le régime a tellement pressurisé tout le monde. Donc c'est très. Et puis il y a aussi, alors là j'en profite pour en parler de ça aussi, certain nombre de pays en Europe qui, à peine la nouvelle du régime tombée,
oui, au lendemain,
se sont empressés. Alors là, c'est
le timing
quand même...
était,
ah ouais, là, c'est
était
sidérant. Assez, là, on voit à quel point
exagéré.
L'humain compte. Se sont empressés d'ailleurs d'annoncer qu'ils gelaient tous les dossiers, tous les dépôts, hein, toutes les demandes déposées de demandes d'asile. Et certains sont déjà en train de réfléchir à expulser. Des Syriens, mais comme il s'était passé la même chose aussi avec les Afghans. Mais alors là, ça s'est quand même fait en un temps record. Quoi. C'est vraiment... quand on entend certains qui osent dire que non, les Syriens seront quand même bien mieux chez eux, oui, alors dans quel état est le pays ? Et là, l'humain, c'est vraiment très anecdotique, comme on dit. Hein.
Oui, c'est beaucoup de chancellerie européenne et heureusement, le droit de l'Union européenne interdit ça. Voilà. Mais
oui.
Bon, les différents ministères de l'Intérieur ne sont pas toujours au courant de la législation en vigueur ou pensent pouvoir la contrecarrer.
Et ils sont dans une logique électoraliste aussi.
En parlant de reconstruction, peut-être sur un plan plus personnel, des victimes, ça fait partie aussi du domaine de recherche, Carole-André Desornes. Comment est-ce qu'on pense les plaies de traumatisme pareil? Est-ce qu'il y a des unités psychologiques, psychiatriques qui vont débarquer par exemple en Syrie pour prendre en charge ces victimes? Comment est-ce que ça se fait, ce travail?
Alors là, déjà, ça va prendre aussi du temps. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi que le système hospitalier syrien puisse être en mesure d'accueillir, d'accompagner.
Et ça va être d'ailleurs une des premières priorités, je pense, du régime,
de
reconstruire ce système de santé.
Ouais,
c'est ce qui a été annoncé.
Plus que 50% démoli.
Oui, plus que 50% démoli. Et d'ailleurs, là aussi, c'est un petit rappel historique, mais les premiers CHU ont été créés au 8e, 9e siècle au Proche-Orient. Et il y avait notamment ce Bimaristan Argoun qui pratiquait... Alors, on n'appelait pas la psychiatrie, mais en tout cas, la prise en charge psychologique. Donc, il y avait déjà une maturité bien avant que ça arrive en Europe. Et par rapport, par exemple, aux patients ici, puisque j'interviens depuis des années à l'hôpital à Sainte-Anne et à l'hôpital de Ville-Évrard, informer le personnel soignant, psychologue, psychiatre, ils ont effectivement beaucoup de citoyens. Alors, première, deuxième et troisième génération, qui sont aussi victimes d'un trauma. Et à la transmission du traumatisme aussi, qui soit transgénérationnel ou intergénérationnel. Donc tout ça, il va falloir le reconstruire. On a quand même aussi des générations qui n'ont connu que la peur, que la violence, que la menace. Et ça ne peut pas partir du jour au lendemain. Et y compris ceux qui sont ici, parce qu'il y a ceux qui étaient ici et qui avaient encore de la famille et qui étaient sous pression, justement, du régime syrien. Donc toutes ces angoisses, toutes ces peurs ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ça va prendre aussi beaucoup de temps. Et surtout, là, je me permettrai aussi de parler de cette résilience qui est un peu le mot fourre-tout qu'on met partout. La résilience, elle n'est possible que quand il y a un environnement qui la permet aussi. Donc, je pense qu'on est plus dans une logique de survie et ça va prendre aussi beaucoup de temps. Et je ferai l'allusion à un film remarquable, Les fantômes.
Qui est sorti
il y a quelques mois.
Il y a quelques mois, oui.
De Jonathan Millet, donc, qui raconte l'histoire vraie d'une traque de criminels, de bourreaux syriens en Europe. Et donc, c'est une cellule qui est chargée de les traquer pour justement les remettre à la justice. Et dans ce film, à plusieurs moments, il est fait état du trauma et de ce que ça peut générer et laisser comme trace aussi bien dans la mémoire mais également sur le corps. Le film, je le recommande parce qu'il est extraordinaire. Hein. Bon, alors peut-être pas évidemment cette période de fête de Noël où on aspire peut-être à autre chose, mais et le livre aussi de Mustapha Khalife, La coquille, qui raconte très très bien aussi l'emprisonnement, les humiliations et ce que le corps et l'esprit subissent.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Salam Kawakibi, tout ça pose aussi la question de la justice. À l'heure actuelle, la Cour pénale internationale n'est pas compétente en Syrie parce que le pays n'a pas ratifié le statut de Rome. Mais si la Syrie le ratifiait à l'avenir, la CPI pourrait revenir sur ce qui s'est passé rétrospectivement. Est-ce qu'on a d'autres outils à disposition pour demander la justice pour les victimes ?
Bien sûr. Juste avant de vous répondre, j'ajouterai à la raison pour laquelle il est très difficile de renvoyer les Syriens chez eux, c'est qu'ils n'ont plus de chez eux. Leurs villes et villages sont presque à moitié détruites. Alors il faut avoir un lieu de retour pour après songer à ce retour. Pour répondre à votre question, bien entendu, là récemment, la justice allemande a condamné des tortionnaires syriens qui ont trouvé refuge en Allemagne en pensant s'éloigner de tout questionnement. Aussi, la justice suédoise, elle a poursuivi des tortionnaires. En France, on a jugé des responsables, mais en France, c'est un peu spécifique, parce qu'il faut que la victime porte la nationalité française. Il y avait une bonne chance qu'une famille syrienne avait la nationalité française. Elle a été emprisonnée et torturée et disparue dans les geôles syriens. Comme ça, la justice française a pu poursuivre les responsables, même si c'est symboliquement. Mais les responsables, maintenant, qui ont fui la Syrie, ils vont chercher un endroit pour se cacher. Et la majorité des chefs de services d'enseignement se trouvent au Liban. Et le Liban, il est responsable maintenant. Il doit, avec l'appui de l'Occident, qui a des très bonnes relations avec ce pays, les obliger à renvoyer ces tortionnaires pour avoir des procès équitables, que ce soit en Syrie ou dans des tribunaux spéciaux à l'extérieur de la Syrie, si on ne fait pas encore confiance à l'intégrité de la justice syrienne, qui est à reconstruire pareil que les autres secteurs de la société.
Que d'autres infrastructures notamment. Mmh. Avant de reconstruire aussi la Syrie sur un plan de patrimoine matériel aussi, vous parliez d'Alep tout à l'heure, Salam Kawakibi, il y a aussi une mission de nettoyage, puisque la Syrie donc a été un terrain de guerre pendant au moins 13 ans. Handicap International a dressé cette semaine son état des lieux. La Syrie, d'ailleurs, est en 2023 le pays qui a enregistré le plus de victimes civiles de mines ou de restes d'engins explosifs, puisqu'il y a énormément d'accidents. Je crois que c'est un accident enregistré toutes les 20 minutes. C'est la première étape avant de pouvoir ensuite pouvoir faire des travaux, essayer peut-être de rendre à Alep sa grandeur d'avant. Ça va prendre aussi énormément de temps.
Il faut déminer les villes, il faut déminer les esprits. C'est un travail colossal. Il faut que tout le monde aide à le faire, même et ne pas se concentrer sur le discours très paternaliste, comme quoi il y a trop de barbus, les droits des minorités, la sécurité d'Israël, c'est ce qui intéresse le plus les médias occidentaux, malheureusement. En même temps, on laisse la situation s'empirer, et quand les gens perdent tout espoir, ils s'enferment dans l'intégrisme et ils se radicalisent plus. Alors c'est un cercle vicieux. Il faut le casser et sortir de ce paternalisme très euro-européen.
Pour reconstruire tout ça, il faut un peu d'argent quand même, des financements. On ne sait pas trop dans quel état sont les caisses de l'État.
Assad les a vidées avant de partir.
Oui, ça a mis 2 ans.
Comme avion. Il l'a fait depuis son père. Leur mission principale, c'était d'appauvrir la Syrie depuis 1970.
Et donc pour financer ces activités quand ils étaient encore au pouvoir, et surtout sur ces dernières années, le camp présidentiel comptait sur la production de Captagon, cette drogue de synthèse très répandue au Moyen-Orient depuis le début de la guerre civile en Syrie, qui finançait allègrement la dictature et dont le prix avait d'ailleurs plus que doublé entre 2017 et aujourd'hui. Une drogue qui était exportée grâce aux milices du Hezbollah qui ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on fait de ce business qui était quand même très lucratif ? Si on s'en sépare, comment est-ce qu'on trouve de nouvelles sources de revenus en Syrie, Carole André Desornes.
Alors, je voudrais déjà quand même préciser que ce business, c'était pas pour permettre aux Syriens de vivre.
Bien sûr, c'était uniquement pour le clan. Dictature.
En fait, le régime syrien était devenu un narco-État. Et donc, selon les années, les recettes étaient estimées, par exemple, à peu près 10 milliards de dollars sur les 3 dernières années, ce qui est absolument colossal.
C'est ça, 3 milliards 46 uniquement en 2020.
Oui, tout à fait. Et puis, surtout, ça a inondé aussi le marché européen, mais aussi la péninsule arabique. Et le problème ne va pas s'arrêter tout de suite. Et puis, pour le financement, il y a aussi, notamment pour la reconstruction du patrimoine, vous avez alors Alif, qui certainement pourra aussi participer grandement, comme la Fondation le fait en Irak, hein, notamment à Mossoul. Et vous avez aussi une organisation internationale syrienne qui est l'Heritage International Institute, qui travaille déjà sur, qui a répertorié en fait tous les sites qu'il fallait justement rénover, réparer, parce qu'ils ont ici, sont des sites martyrs, le Krak des Chevaliers notamment, par exemple.
Qui est un des 6 lieux en Syrie qui est classé.
Tout à fait. Palmyre, hein, qui a été bien abîmé par Daesh. Mais une grande partie des destructions, ce n'est pas Daesh en Syrie, c'est le régime, notamment Alep.
Pour payer aussi.
Oui, tout à fait, parce que c'était une
bonne rente. Terre qui n'a rien arrangé par la suite. En...
Exactement, oui. Mais c'était une bonne rente, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une partie aussi du patrimoine qui a été pillé, vendu au marché noir, à des grands collectionneurs. Donc tout le monde y a participé, hein, avec grand plaisir, si je puis dire. Donc, ça fait partie aussi de cette reconstruction, parce que le patrimoine, c'est la mémoire. Et donc, détruire le patrimoine, c'est détruire la mémoire, ce que le régime a tenté de faire aussi, en plus en essayant de s'enrichir là-dessus, évidemment. Le patrimoine utilisé dans la guerre, c'est devenu aussi une arme de guerre. Et donc, ça fait partie, notamment là aussi, de ce qui est intégré comme crime de guerre. Donc, il y aura peut-être des procès à venir aussi. Et je me permets juste de rebondir sur ce que Salam disait tout à l'heure. Effectivement, c'est le procès de Koblenz qui a été un peu le premier procès à l'étranger en Allemagne, où c'est un ancien dirigeant qui est accusé d'avoir, en tout cas, été à l'origine de la torture de 4000 personnes, du moins de l'avoir ordonné, et d'être à l'origine de la mort de 27 prisonniers qui étaient condamnés à perpétuité.
Vous l'avez dit tout à l'heure, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, le patrimoine, c'est la mémoire.
Oui.
C'est aussi peut-être ce qui pourrait permettre, je ne sais pas ce que vous en pensez, Salam Kawakibi, à la Syrie, de renaître en le valorisant comme une façon d'attirer, peut-être de renouveler le tourisme dans quelques années. C'est peut-être pas la priorité, évidemment.
Voilà. Je crois que la Syrie, économiquement, elle a des atouts. Au niveau de l'agriculture, au niveau de la position géographique et la liaison entre l'Europe et l'Asie, il faut se rappeler qu'Alep, c'était la ville principale sur la route de la soie. Il y a aussi l'industrie qui était très développée en Syrie, et notamment dans la région d'Alep. Et là, les auditeurs vont croire que je suis un Alepin chauvin, mais c'est une réalité. Il y a aussi le gaz et le pétrole qui a été pillé par le régime d'abord, ensuite par l'État islamique. Et actuellement, il est seulement exploité par les milices kurdes, PYD. Et une des choses qui rassure un peu, hier, le ministre actuel de l'énergie a annoncé qu'il y a des négociations avec les milices kurdes pour partager la rente pétrolière. Ça veut dire ce nouveau régime de Damas, il ne cherche pas les confrontations, il cherche les compromis, même avec ceux qu'on croyait les pires ennemis de ce courant politique ou religieux ou autre.
Des ressources qui sont aussi sous sanctions internationales pour certaines. Vous parliez des industries notamment. Ça fait partie notamment des sanctions de l'Union européenne qui sont très ciblées sur les individus, sur les hommes d'affaires proche du régime, mais aussi des entreprises, et dont Ahmed Al-Shara, le chef de HTS, donc, a demandé cette semaine, lors d'une conférence de presse, c'est une de ses priorités, la levée des sanctions internationales, on comprend, pour pouvoir redresser l'économie. Carole André Desornes, Salam Kawakibi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Amélie.
Merci aussi à Cécile Lavolo et Mathias Golchani à la réalisation. Demain, vous retrouverez Marie-France Chatin à ce micro. Bon week-end à toutes et à tous à l'écoute de RFI.